Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Et voilà, comment prévenir les cancers du sein et du col de l'utérus. Docteur Antoine Modia, gynécologue, est notre invité ce matin pour en parler. Les cancers du sein ou encore celui du col de l'utérus sont très fréquents chez plusieurs femmes. D'après les spécialistes, ces maladies deviennent graves. Lorsque l'on découvre tardivement, les femmes doivent donc se faire dépister au moins une fois par an pour prévenir, pour permettre de dépister ces maladies et puis être prises en charge le plus rapidement possible pour avoir beaucoup de chances d'être guéri. Alors nous rappelons le numéro des contacts si vous êtes intéressé par ce sujet. Appelez 081 890 63 94. Vous avez aussi la possibilité de réagir sur la page Facebook au Capi Service ou encore de nous écrire par SMS au 081 711 50 01. Voilà, docteur Antoine Mondial, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation pour parler de comment prévenir les cancers du sein, du col de l'utérus. La première question qui me vient à l'esprit, pourquoi ces deux types de cancers sont très fréquents chez les femmes?
Je crois que ce que je voudrais faire d'abord, c'est pour vous parler des cancers. Les cancers, c'est quoi?
C'est quoi les cancers? Voilà, allez.
Comprenez. En fait, chacun de nos organes et de nos tissus sont constitués de ce qu'on appelle des cellules. Et ces cellules sont programmées pour naître, croître, se multiplier et mourir. Donc ça, sous un contrôle strict de notre génétique et de notre système immunitaire. Et pour une raison ou pour une autre, soit à cause d'une agression extérieure, qui peut être l'environnement lui-même, ça peut être des organes agressifs comme les bactéries, comme les virus et tout cela, et même parfois un problème alimentaire. Et pour cette raison, d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, les systèmes se dérégulent. Ce qui se passe, c'est que les cellules qui sont agressées de cette manière et qui ne répondent plus au contrôle se multiplient de manière anarchique et envahissent d'abord les tissus, et puis l'organe, et puis finalement, si on y prend pas garde, c'est tout le corps qui est envahi, et c'est ça qu'on appelle les cancers. Et à ce qui concerne les cancers du col et les cancers du sein, oui. Il faut dire que ce sont les organes, d'abord je veux dire, ce sont des cancers qui ne devraient pas normalement poser des problèmes. Parce qu'à ce qui concerne les seins sont à la vue, on peut le toucher quand on veut. On peut peut-être se poser la question pour les cols, c'est quand même difficile, certaines femmes peuvent pendant leur toilette intime toucher leur col, mais ne peuvent pas le voir. Donc le cancer qui se développerait au niveau du sein, ce sont des cancers qu'on peut dépister facilement rien qu'à la vue, rien qu'à la palpation, parce que normalement le sein a une certaine consistance. Et lorsqu'on a l'habitude de connaître ses seins, de les palper tout le matin, et qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose d'anormal, une boule qui n'était pas là, il faut se poser la question. Il ne faut pas rester à la maison, il faut venir voir son médecin, parce que c'est le médecin qui doit poser le diagnostic. En ce qui concerne les cancers du col, malheureusement, ça nécessite une visite médicale. Il faut aller voir son médecin. Le médecin, nous avons l'habitude de regarder les cols et nous connaissons quel est l'aspect normal du col et qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'on ne vient pas nous voir, eh bien, habituellement, on nous vient avec de problèmes, avec de plaintes. Alors, il ne faut pas attendre les plaintes.
On doit revenir d'abord sur ce que vous avez dit. En ce qui concerne les cancers du sein, vous avez dit un peu régulièrement, c'est palper le sein. Mm-hmm. Lorsque vous avez l'impression qu'il y a une boule anormale,
oui, tout à
il
fait.
Faut aller. Donc, c'est palper le sein chaque jour. Une femme peut se palper le sein.
Non, bien, non, mais chaque jour, peut-être c'est un peu trop exagéré, mais oui. On se lave chaque matin.
Exactement, oui.
Donc en passant la main sur le sein, on ne peut pas voir. Même l'homme, hein, il n'est pas interdit. C'est des organes qui sont accessibles. Donc en fait, c'est palper. On n'a pas besoin de le faire tous les jours. Mais au moins une fois le mois, hein, on peut le faire, hein, en ce qui concerne les cancers du sein. Donc, en fait, dans le sein, il n'y a pas que les cancers aussi. Il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession. Lorsqu'il y a une boule dans le sein, il n'est pas dit que c'est un cancer. Donc, ça peut être simplement un kyste. Ça peut être simplement un adénofibrome. C'est comme le fibrome qu'on trouve au niveau de l'utérus. Donc, il ne faut pas tout le temps, mais il faut le dire. Mais lorsqu'il y a surtout à partir des 30 ans, vous avez ces genres de choses, il faut absolument aller voir son médecin.
Alors pour les cols de l'utérus, c'est souvent aussi un médecin lors d'un examen, mais est-ce qu'il y a des signes qui peuvent peut-être être des signes d'alarme, des signes précurseurs?
Je voudrais dire ceci, oui. Que pour les cancers, tous les cancers en général, il ne faut pas attendre qu'il y ait des signes. On va parler des signes des cancers, des cols tout à l'heure. Hein, donc, il y a des signes. Il y a des signes, c'est des hémorragies de contact, en dehors des règles. Des hémorragies pendant, donc, juste après les rapports, pendant les rapports. Lorsqu'on commence à saigner, par exemple, surtout lorsqu'on est aménopausé, qu'on commence à saigner facilement, ça, ce n'est pas un bon signe. Mais il ne faut pas attendre ces signes-là, parce que les cancers, avant de devenir cancer, mais il a des signes prémonitoires, c'est-à-dire que nous, en tant que médecins, en regardant simplement le frottis, c'est-à-dire les cellules prélevées au niveau du col et du vagin, nous pouvons dire que là, il y a quelques cellules qui commencent à ne pas avoir l'aspect normal. Ça s'appelle des cellules dysplasiques. Et ces cellules existent 10 ans avant que ces cellules ne deviennent un cancer, avant que le col ne puisse porter le cancer. Donc, le fait de venir voir son médecin une fois l'an, et quand on détecte ces types de cellules, et on peut bien le suivre, le surveiller, et parfois, s'il y a des signes d'alarme, on peut même traiter déjà à ces niveaux-là, traiter les cellules dysplasiques, ce n'est pas difficile du tout, on peut le faire, et ça évite que ces cellules ne progressent vers un cancer véritable. Donc là, c'est le médecin qui doit le faire, c'est le médecin qui doit le dire, une femme ne peut pas se dire que je suis porteuse d'un cancer du col, elle-même.
Ah, donc c'est comme si c'est le médecin qui peut le dire, donc c'est bon pour une femme, au moins une femme par l'an, comme il avait dit, d'aller en visite.
Non, il faut venir voir son médecin, même lorsqu'on sort, surtout lorsqu'on attend la quarantaine. Il faut aller voir son médecin. Mais, vous savez, les cancers n'attendent plus l'âge. Depuis l'avènement du sida, il y a de jeunes femmes de 20, on a même eu une jeune femme de 18 ans qui est venue avec un cancer avancé. Donc ça signifie que du moment qu'on a commencé une activité sexuelle active, il faut aller voir son médecin. Ce n'est pas seulement pour les cancers du col, mais pour le reste de toutes les pathologies féminines qu'on peut raconter.
Enfin, alors mesdames, vous avez bien suivi, hein, il ne faut pas attendre le signe, hein, pour les cancers du col de l'utérus. Il faut, même si vous n'avez pas de signe, vous n'avez rien, vous vous sentez bien, mais allez tout de même, au moins une fois par an, hein, une fois l'an, allez voir votre gynécologue qui peut-être au cours d'un examen, gynécologie peut arriver à détecter déjà des signes, hein, de précurseurs d'un cancer du col de l'utérus. Et pour ce qui est du sein, vous pouvez de temps en temps vous palper le sein dès que vous remarquez qu'il y a une boule anormale, un truc qui vous semble vraiment suspecte, allez voir un médecin, c'est après un examen que le médecin pourra dire s'il s'agit d'un cancer du sein ou bien peut-être de toute autre maladie. Voilà, si vous êtes intéressé par ce sujet sur la prévention du cancer du sein et du col de l'utérus, nous rappelons, on fait signe que le numéro, ce n'est pas les 081 890 6094, ce numéro ne marche pas aujourd'hui, appelez plutôt au 081 890 63 79. Je répète, 081 890 63 79. Mais pour les SMS, c'est le même numéro, le 081 711 5001, et la page Facebook au Capi Service reste toujours la même page. Voilà, on poursuit avec notre invité, Dr Antoine Modia, qui est gynécologue, avec qui on parle de comment provenir le cancer du sein et du col de l'utérus. Alors, généralement, docteur, lorsqu'on arrive maintenant à dépister les cancers du sein, oui, ou encore du col de l'utérus, commençons par le cancer du sein, et le traitement, c'est passe comment?
Bon, d'abord, il faudrait que je rappelle quand même quelque chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle de facteurs de risque, oui, pour tous ces cancers-là.
Oui, oui,
mais écoutez, commençons par les cancers du col. C'est, oui, un cancer le plus répandu dans le tiers-monde, dans le pays pauvre. C'est un cancer des pays pauvres, et le facteur de risque, ils sont par exemple la pauvreté elle-même. La pauvreté pousse les jeunes filles très tôt à pouvoir avoir des rapports sexuels, à multiplier les partenaires sexuels, à avoir des grossesses précoces et avoir une maternité profuse. Et tout ça, ce sont des facteurs de risque. Dans milieu comme le milieu occidental, il y a aussi le problème de tabagisme. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de femmes qui fument, donc ça ne pose pas de problème. Donc on a incriminé à un moment donné aussi la prise d'œstroprogestatifs, donc des contraceptifs, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas très très prouvé, parce que depuis de plus en plus les cellules, dont les pilules que nous prenons sont des pilules mucodosées, ça ne pose aucun problème. Donc, en fait, le cancer du col, c'est un cancer de pauvre. Par contre, le cancer du sein, c'est le cancer d'une couche sociale nantie. Hein, parce que c'est un cancer qui intéresse, qui tourne autour des 40 ans et qui intéresse de femmes qui se nourrissent très bien en Grèce, des femmes. Il ne faut pas aussi oublier que le cancer du sein peut intéresser également l'homme. Donc l'alimentation, la suralimentation, l'obésité et tout cela, le fait que, bon, on est dans un processus d'étude, on ne se marie pas très tôt, on n'a pas des enfants à temps, on a une ménopause tardive, voilà, c'est justement l'inverse. Lorsque on vous incrimine pour le cancer, comme les risques, les facteurs de risque pour le cancer du col, le fait d'avoir des relations sexuelles précoces et multiples avec des partenaires et surtout des relations sexuelles non protégées avec beaucoup de partenaires, et à ces moments-là, eh bien, en ce qui concerne le cancer du sein, c'est l'inverse. C'est des femmes qui n'ont pas eu d'enfants et qui n'ont pas eu de grossesse, et des femmes qui ont une longue période d'activité génitale avec une ménopause tardive. Mais il faut dire aussi la différence, c'est que en ce qui concerne les cancers du sein, il y a un lien génétique. Il y a des femmes qui sont prédisposées à pouvoir développer le cancer du sein. Lorsqu'on est dans une fratrie ou dans une grande famille, dans les générations antérieures, sa tante ou sa mère qui développe un cancer du sein, on a plus de chances de le développer que quelqu'un d'autre. Et par contre, ce lien n'est pas bien prouvé en ce qui concerne les cancers du col. Les cancers du col, c'est un cancer qui est transmis par un virus qu'on appelle humaine, papillomavirus, HPV. Ce sont des virus qui sont transmis sexuellement. Donc on peut dire quelque part que le cancer du col peut être transmis, je vais dire, peut être transmis au moins par ces lésions précancéreuses, les lésions qui précèdent l'apparition des cancers, par un virus qui est très très bien connu, et donc on peut éviter ces cancers en se protégeant pendant les rapports d'occasion, je vais dire, des partenaires de passage. Et il faut donc, à ce qui concerne la jeune femme, l'éduquer à ce qu'elle puisse attendre avant de pouvoir commencer les rapports sexuels, parce que ce virus dont je viens de vous parler est justement transmis par le sexe.
Voilà, mais docteur, vous avez parlé pour ce qui est du cancer du col de l'utérus, parmi les facteurs de risque, vous avez parlé de mariage précoce. Mmh. Alors, mais je dirais, mais à l'époque de nos grands-parents, généralement, on s'est marié un peu très tôt quand même. Hein.
Mais elle mourait de leur cancer sans qu'elle soit découverte, sans qu'on puisse le détecter, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent à cette époque-là, oui. Hein, quand il n'y avait pas. Alors, en fait, on connaît maintenant de plus en plus les cancers du col, parce que les systèmes sanitaires se sont développés et la technologie qui est très très poussée actuelle, et cette technologie n'existait pas à l'époque. Certainement, ces femmes faisaient des cancers sans qu'on puisse s'en rendre compte. Mais vous avez parlé des traitements. Les traitements d'un cancer, c'est un traitement préventif. Il faut commencer par prévenir, parce que quand on vient voir ce médecin précocement et que le diagnostic est posé de manière précoce, la prise en charge est facile et efficiente. C'est-à-dire que normalement, lorsqu'on a une petite lésion précancéreuse, je vous ai dit, on peut soigner. On peut soigner avec les lasers, on peut faire ce qu'on appelle la conisation, enlever une partie du col. On peut enlever l'utérus lui-même. Lorsque le cancer est bien localisé, eh bien, on a des très bons résultats. C'est un cancer très guérissable. Mais, comme je vous ai dit, lorsque vous n'avez que des lésions qui ne sont pas encore devenues des cancers, on peut surveiller avec des frottis annuels. On peut le faire. Ou tous les 3 ans. Ça dépend. Quand on a eu déjà 2, 3 frottis qui sont négatifs, il ne faut pas les multiplier tous les 3 ans, on peut venir. Mais quand on n'a pas encore fait ces frottis, il faut absolument aller voir son médecin. Donc on peut... Mais lorsque le cancer est au stade avancé, ça devient un gros problème. À ce moment-là, il y a donc plusieurs types de traitements. Il y a la chirurgie elle-même, il y a ce qu'on appelle la chimiothérapie, c'est-à-dire les médicaments, et la radiothérapie. Et ceci est valable aussi pour les cancers du col, du sein. Lorsque le sein, donc le cancer est découvert très très tôt avec une boule, on peut enlever la boule, on peut faire analyser la boule, et s'il faut enlever le sein lui-même, on doit l'enlever. Mais il y a aussi la chimiothérapie, je dirais, et surtout l'hormonothérapie et la radiothérapie.
Alors, on va découvrir une réaction qui vient de nous parvenir, c'est Neymar, patient Bagoma, qui nous écrit de Bukavu. Ah, docteur, pardon, vous avez dit le traitement préventif, c'est ce qui est le plus important. Commençons par les cancers du sein. C'est quoi la meilleure prévention pour les cancers du sein?
La meilleure prévention, c'est de pouvoir se palper les seins,
oui.
Donc soi-même, de l'autopalpation, je vais dire, ou alors le fait qu'on doit pouvoir aller voir son médecin pour pouvoir se faire examiner, même si on n'a pas ses boules. Parce qu'il y a certains cancers qui ne se traduisent pas, les cancers du sein, qui ne se traduisent pas par des boules. C'est pour ça qu'on recommande aux femmes autour de 40 ans, de pouvoir aller faire une mammographie. C'est un examen simple, une radio de sein, et qui peut, parfois, même si on n'a pas de signes, attirer l'attention sur un certain nombre d'images, et qui peuvent, en fait, représenter les débuts d'un cancer du sein. Le fait qu'on puisse avoir un écoulement mammaire, alors, ça c'est important. Normalement, on ne doit pas avoir un écoulement mammaire, et surtout sanglante, sans raison. Donc, il n'y a pas de raison que ça peut cacher aussi un cancer. Mais quand on y va, à ce moment-là, c'est le médecin qui prend la bonne décision pour une prise en charge la meilleure, si on n'est pas trop tard, s'il n'y a pas encore des métastases, si les ganglions ne sont pas avalés.
Et l'utilisation de certains produits cosmétiques sur le sein, ça peut être aussi dangereux?
Non, je ne crois pas que ça puisse être incriminé.
Voilà, d'accord. Là, c'était pour les cancers du sein, et puis on y va aussi rapidement. La meilleure prévention pour les cancers du col de l'utérus.
Ben, c'est la même chose. Oui. C'est-à-dire que la femme doit aller voir son médecin pour ses dépistages du cancer. Enfin, disons, un dépistage précoce au niveau. En faisant un frottis simplement.
Oui.
Mais il y a maintenant, depuis 2006, on a maintenant des vaccins anti, justement, les virus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a des cancers, donc des vaccins qui sont disponibles dans les pays nantis. Nous espérons que dans nos régions, on aura certainement la possibilité d'avoir ces vaccins. Et donc, les vaccins existent, et ces vaccins sont donnés aux enfants de 11 à 14 ans.
Nous avons un auditeur en ligne, Donatien Thiyo, qui nous appelle de Lumbashi, au Katanga. Nous parlons de comment prévenir le cancer du sein ou du col de l'utérus avec le docteur Antoine Modia, qui est gynécologue. Si vous êtes intéressé par ce sujet, appelez-nous 081-890-63-79. Avant d'accueillir Donatien, on découvre rapidement cette réaction de Neymar qui nous écrit de Bukavu dans le site qui vous l'écrit ceci. Docteur, est-ce que les cancers peuvent affecter le sang?
Ah oui, les cancers. Il y a des cancers du sang. Et donc, on peut avoir... Donc, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Donc, toutes les cellules dont je vous ai parlé de l'organisme peuvent subir cette dérégulation dont je vous ai parlé et commencer à se multiplier de manière anarchique et envahir tout l'organe. Donc, le sang a des cellules qui peuvent justement se multiplier de manière désordonnée et anarchique. On a ce qu'on appelle les leucémies. Donc, ce sont les cancers assez violentes et qui tuent rapidement. Donc, le sang peut être l'objet d'un cancer. Le siège d'un cancer.
Voilà. Donatien Thiyo, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Bonjour Donatien.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité.
On vous écoute, quelle est votre question?
J'ai deux petites questions que je voulais poser à l'invité. D'abord sur le cancer du sein. L'invité a parlé qu'on peut trouver une boule au niveau du sein. Alors, je voulais savoir quelle est la différence entre une boule qu'on peut trouver dans le cas des nodules du sein ou bien d'un kyste avec une boule de cancer. La deuxième question, c'est sur les stérilets parmi les méthodes contraceptives. Est-ce que les stérilets peuvent causer le cancer? Ce sont les deux questions que je voulais poser au docteur qui est dans votre studio.
Voilà. Merci Donatien Thiyo. Merci d'avoir appelé de Lubumbashi dans la province du Katanga. Docteur Antoine Modia.
Oui, mais je voudrais dire que toutes les boules qu'on trouve dans le sein, je l'avais dit, ce ne sont pas nécessairement des cancers. Donc, nous, en tant que médecins, nous avons des signes. Lorsque j'ai une boule simple qui est arrondie et qui est rainitante, qui n'est pas collant à la peau, qui ne colle pas en profondeur et qui n'est pas très très ferme, je peux suspecter simplement ce qu'on appelle une mastopathie bénigne du sein, mais le vrai diagnostic, c'est de pouvoir prélever, surtout à partir des 30 ans. Chaque boule qu'on trouve dans le sein devait faire l'objet de ce qu'on appelle une biopsie. Donc on prélève un morceau, il n'y a que l'anatomopathologie qui peut nous dire s'il s'agit de quelque chose de bénin ou de quelque chose de malin, comme comme un cancer. En fait, aussi, sur le plan clinique, les cancers se caractérisent par le fait que lorsque la boule n'est pas encore très très importante, elle est ferme et n'est pas douloureuse, parce qu'il faut aussi le dire. Lorsque le cancer commence à faire mal, c'est qu'on est un peu très très loin dans le cancer. Donc, pour répondre à cette question, eh bien, la différence entre quelque chose qui n'est pas un cancer et quelque chose qui est un cancer, eh bien, c'est le fait de prélever un petit morceau de cette boule, de l'enlever s'il s'agit d'un petit kyste ou d'un petit fibrome, et d'envoyer au laboratoire. Et le laboratoire nous dira qu'il s'agit de quelque chose de banal. Mais ces genres de femmes doivent être suivies parce que si elles commencent à développer des boules, un jour elles risquent de développer aussi un cancer. C'est pour ça qu'il faut. Mais est-ce qu'un stérilet peut entraîner ? Ça, c'est au niveau de l'utérus. Parce que nous parlons ici du cancer du col. Le col fait partie de ce qu'on appelle la matrice l'utérus. Mais il y a une partie à l'intérieur du col qu'on appelle l'endomètre, là où se met l'enfant. C'est là où se met le stérilet. Et les cancers de l'endomètre ne sont pas liés à la présence des stérilets, jusqu'à la preuve du contraire.
Voilà, là c'était la réponse à Thio qui nous appelait, Donatien Thio qui nous appelait de Lubumbashi dans la province du Katanga. Alors, puisqu'il a parlé de stérilet, est-ce qu'il y a d'autres méthodes contraceptives qui peuvent aussi donner lieu à un cancer
Mais écoutez, je vous dis que à un moment donné, on a incriminé un peu la prise prolongée avec de fortes doses de hormones qu'on appelle les estrogènes et progestérone. Ce sont les hormones qu'on utilise pour pouvoir bloquer l'ovulation. Et si, à l'époque, il était décrit quelques cas de cancer du sein ou liés au fait que ces femmes-là prenaient pendant longtemps ces hormones. Maintenant, je vous ai dit que de plus en plus, les dosages de ces hormones sont tout à fait réduits, sont des micro-dosages, et donc les estroprogestatifs ne sont pas nécessairement à la base d'un cancer ni du col ni du sein.
Voilà, on va poursuivre avec Omar Kigalo qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Omar.
Bonjour Marcel et bonjour à l'invité, monsieur le maître.
On vous écoute, Omar. Allez-y, quelle est votre question?
Merci Marcel. Première question. Je voudrais savoir, est-ce que le rouge à lèvres, le parfum contenant l'aluminium, peut aussi être la base du cancer de sein? Parce que dans le cadre de notre ONG Medimas, nous avons organisé dans une école en Gili la campagne d'expression contre le cancer. Le médecin avait dit également que l'usage du rouge à lèvres ainsi que le parfum contenant l'aluminium peut aussi être à la base du cancer. Je veux que mes invités puissent s'informer ou s'informer. Deuxième question. Est-ce que l'autopalpation, lorsqu'elle est mal exécutée, ne peut pas entraîner les jeunes filles à la masturbation? Parce que souvent, on explique mal et lorsque les gens ne savent pas bien, on peut taper leur sein, taper leur pousser à des sentiments non contrôlés. Quelles sont les bonnes méthodes pour bien faire une auto-palpation? Et troisième et dernière question, le médecin nous avait également dit que lorsqu'on prépare dans une marmite contenant le zinc, qu'on appelle la synthèse les maudits, il faudra éviter que la nourriture dorme dans cette marmite, excusez-moi le terme vulgaire, donc dorme dans cette marmite. Parce que le matin, lorsque vous enlevez la nourriture, il y a une couleur jaunâtre qui paraît. Il a conseillé aux gens d'utiliser les marmites aluminium, parce que ça peut aussi être à la base du cancer. Est-ce que le médecin peut infirmer ou confirmer cela? Et dernière question, le sein de la femme contient beaucoup de graisse. Et souvent, ils aiment manger les purgélés. Est-ce que la consommation fréquente des cuisses, comme on appelle la Kinshasa, des poissons, peut aussi renforcer, n'est-ce pas, la contamination du cancer? Voilà mes quatre questions que j'avais voulu poser. Je vous remercie.
Merci Omar Kigalo, merci d'avoir appelé les Kinshasa. D'autant Antoine Moudia, voilà, rouge à lèvres, le rouge à lèvres.
Écoutez, on est en train de parler de cancer du sein et pas de cancer de peau, hein, parce qu'il faut faire attention, parce que le cancer du sein concerne la glande mammaire, donc ce n'est pas quelque chose. Mais le sein, c'est un organe de tous les autres. Si un cancer vient se greffer sur la peau du sein, c'est possible. Donc, je dis, les facteurs de l'environnement peuvent être nuisibles, peuvent être responsables d'un certain type de cancer, mais je ne parle pas de cancer du sein. Et quand on parle de marmites, je vois, on fait allusion à des marmites qu'on fabrique ici, avec la possibilité de éléments lourds qui peuvent se détacher, mais ça peut peut-être être à la base de cancers de tube digestif, parce que ça va dans l'estomac, des choses comme ça. Mais je ne crois pas que ça puisse être une cause de cancer du sein ou du col, par exemple.
Et il y a parlé également du parfum contenant de l'aluminium qu'on asperge sur le sein.
Mais c'est pour ça que je t'ai dit, je dis à notre auditeur qu'il ne s'agit pas de, je ne parlais pas des cancers de peau. C'est possible que ce soit peut-être impliqué dans le cas de cancer de peau, mais pas le cancer du sein. Donc le cancer du sein n'est pas lié à tout ce qui est superficiel sur la peau. Normalement, non. Et ce ne sont pas des facteurs de risque pour le cancer du sein et le fait de se mettre de parfum sur la peau. On peut peut-être avoir des lésions au niveau cutané. Ça ne peut pas intéresser simplement la peau du sein, ça peut intéresser n'importe quelle partie du corps. Donc on peut développer, donc quand on utilise l'hydroquinone, des choses comme ça, ça peut avoir des lésions cutanées, mais je ne parle pas de cancer dans ces conditions-là, de cancer de sein.
La bonne façon de se palper...
Oui, mais je crois que je ne devrais pas faire... Si j'étais devant la télévision, j'aurais pu faire la démonstration, mais il y a une manière de le faire, mais la manière de le faire, c'est simplement de pouvoir plaquer sa main contre ses seins et aller à ce moment-là chercher de petites anomalies ou des boules cadrantes pas cadrant, mais c'est quelque chose qui est facile. Même le fait qu'on passe la main sur ce sein parce qu'on cherche à pouvoir... Mais ce que j'ai dit aussi, même quand on a palpé, il ne faut pas oublier de terminer la palpation par l'expression, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui sort par les mamelons. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Mais on me dit que peut-être cette palpation peut amener à des masturbations. Ça, c'est un autre problème. C'est un problème d'éducation. Quand on dit c'est palpé, moi je dis on se lave chaque matin, c'est pas pour ça qu'on se masturbe. Et il n'est pas dit que pour les femmes mariées, par exemple, il n'y a pas qu'elle qui est obligée de
le mari
peut le faire aussi. Mais donc, si c'est ça la masturbation, mais ça n'engage que la personne qui le fait. Mais c'est non, en tout cas, la palpation de sein n'est pas liée à une masturbation ou à une petite déviation sexuelle.
Il a également parlé de la consommation de la graisse.
Oui, mais on a dit ici que le cancer du sein, pour ce qui concerne le cancer du sein, ça peut être quelque chose, un facteur, ça peut être l'un des facteurs, parce qu'on a dit qu'une alimentation riche en graisse, l'obésité peut être un des facteurs déterminants de ces cancers. Donc c'est vrai, il faut éviter une alimentation riche en graisse, il faut manger beaucoup de légumes, beaucoup de poissons.
On s'entendait parler avec le docteur Antoine Modia de la prévention du cancer du sein de l'utérus. Ça nous fait plaisir d'avoir une femme au bout du fil, Adrienne Amouyeti, qui nous appelle de Lubumbashi au Katanga. Alors bonjour Adrienne.
Bonjour monsieur Marcel Ngombala, bonjour aussi au docteur Antoine.
Merci.
Moi, j'ai tant de questions à poser. Moi, j'aimerais juste sélectionner quelques questions.
Oui, allez-y.
Et la première, monsieur Antoine, j'aimerais savoir, entre ces deux cancers, quel est le cancer le plus fréquent chez la femme ici chez nous en RDC?
Oui.
Et la deuxième, j'aimerais savoir si le cancer du col de l'utérus est meurtrier. Et une autre question, la troisième, j'aimerais savoir si la vaccination élimine à 100% les risques de contracter un cancer du col. Et la quatrième question, le premier symptôme du cancer du col se manifeste par quoi? À part ce que vous avez dit, si c'est les boutons, à part ça, il y a aussi d'autres manifestations. Et la dernière, monsieur Antoine, les femmes ayant eu leur première relation sexuelle très jeune et avec des partenaires multiples, j'aimerais savoir si cela aussi peut créer le cancer du col. Merci
pour toutes ces questions.
Merci Adrienne Amouyeti, merci d'avoir appelé de Lubumbashi au Katanga. Docteur, qu'est-ce que vous dites Adrienne? Commencez par elle a cherché à savoir entre les deux types de cancers, celui
c'est évident. Donc je disais tout à l'heure au début de cette émission que les cancers du col, c'est les cancers de la femme d'Afrique, donc dans les pays du tiers monde, les cancers des femmes pauvres. Donc les cancers les plus fréquents chez nous, c'est les cancers du col. C'est la première cause de mortalité en Afrique et dans les pays pauvres. Les cancers du sein, c'est le premier cancer en Occident. Donc, c'est un peu l'inverse. Donc, chez nous, le cancer du sein vient en troisième position, à peu près, après le cancer du côlon, des choses comme ça. Mais,
Je veux également savoir, oui. vous avez dit, c'est la mortalité. Je cherche à savoir si le cancer du cœur
est mortel. Oui, mais elle est meurtrière lorsque, le cancer du col, il est meurtrier lorsque il est dépisté trop tard. Parce que lorsque vous arrivez à des stades très très avancés, eh bien, ces cancers ne pardonnent pas, parce qu'on est mal outillé, il n'y a pas trop d'équipements, il n'y a pas beaucoup de centres de radiologie et de véritables centres de prise en charge oncologique. Ici, chez nous, ça pose le problème, c'est pour ça que une prise en charge précoce bien minimise, donc si vous voulez, le taux de mortalité de ces cancers. Bon, à un moment donné, il y a également...
Par la vaccination. Est-ce que le risque de contracter ces cancers par la vaccination est totalement
écarté? Vous savez que c'est un vaccin qui est destiné aux enfants, je vais dire, aux adolescentes, donc qui n'ont pas encore commencé les rapports sexuels. Ça, c'est faux, parce qu'une fois qu'on a eu le rapport sexuel, le vaccin ne sert plus à rien, parce que les chances de contamination par ces virus dont je vous ai parlé, les HPV, et donc les risques sont très très importants une fois qu'on a commencé à avoir des rapports, hein, non protégés surtout. Donc, il couvre lorsqu'il est donné et dans des conditions acceptées. Par exemple, bon, on dit ce sont les jeunes femmes de 11 à 14 ans, et on peut faire un rappel entre 15 et 19 ans. Donc, ça peut protéger. On est, il n'y a pas longtemps que ce vaccin a été mis sur le marché. On a un petit recul, mais on ne peut pas se prononcer maintenant que c'est une protection à 100%.
Mais on ne le trouve pas encore.
Chez nous, justement, c'est malheureux. Oui. Donc, c'est un vaccin qui est déjà disponible à travers la Terre. Je crois que notre ministère de la Santé va pouvoir, avec la Ligue nationale de lutte contre les cancers que dirige mon ami le docteur Soulou. Je crois qu'on est en train justement de se battre pour que ces vaccins puissent... Ils coûtent très très cher, mais ils doivent être subventionnés par l'État pour qu'ils soient mis à la disposition. Je vous ai parlé des dépistages. Le dépistage dans les autres cieux, eh bien, c'est un dépistage gratuit, c'est-à-dire subventionné par l'État. Ici, chez nous, quand nous disons venez vous faire dépister, c'est-à-dire vous devez débourser de l'argent. Mais or, pour pouvoir lutter contre un tel fléau, il faut plutôt un dépistage de masse. Hein, de masse, et ça doit être, si vous voulez, soutenu par l'État congolais.
Et actuellement, par exemple, à Kinshasa, il y a un dépistage qui se fait au niveau de clinique universitaire pour ce qui est du cancer du sein de l'utérus. J'espère que beaucoup de femmes profitent de l'occasion. Et vous-même aussi,
oui,
vous avez déjà lancé des campagnes.
Nous lançons la campagne, c'est ça justement. C'est pour ça que nous disons que ça doit être subventionné. Ça quand même un coût.
Oui.
Ben, donc, le Clinique des Anges, c'est depuis l'année passée que nous faisons ces dépistages. Mais ce sont des dépistages à faible échelon. Donc, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir dépister tout le monde, étant donné que ces dépistages implique les gynécologues et les pathologistes. Ça signifie que ça a un coût. Mais sinon, les femmes qui ont la possibilité de venir se faire dépister viennent et nous le faisons.
Et rapidement, avant de découvrir cette question de Martine qui nous a écrit sur notre page Facebook, vous avez la question sur le signe du cancer du col de l'utérus.
Mais il faut attendre. Il faut, justement, ces signes existent.
Il ne faut pas les attendre.
Donc, ce sont des femmes qui viennent en vous disant qu'elles saignent. Elles saignent au moindre contact. Elles saignent après les rapports. Et parfois, il y en a qui se plaignent de morceaux ou de perte de liquide malodorant. Et à ce moment-là, il ne faut pas attendre. Ou alors des douleurs. Il ne faut pas attendre ces signes-là. Parce que là, c'est vraiment... On est à des stades très, très, très avancés et la prise en charge devient aléatoire.
Et vous avez dit, le mieux à faire, c'est d'aller en tout cas une fois l'an pour une consultation gynécologique.
Moi, je dirais très loin. Il y en a qui parlent de 25 ans. Moi, à 18 ans, dans nos pays, et avec le MERS de chez nous, et compte tenu de la pauvreté, je crois qu'il faut aller se faire dépister, faire un frottis simple. On vous dira que tout va bien et revenir une année après. Si au bout de 2 ans, vous avez des frottis qui sont négatifs, ça ne sert à rien d'aller tous les ans. Il faut aller tous les 3 ans.
Voilà, qu'est-ce que vous dites à Martine qui nous écrit, Martine Tintiamalou, qui nous écrit ceci depuis Kinshasa. Le cancer du col de l'utérus peut-il occasionner la stérilité?
À ma connaissance, non, il n'y a pas de raison, mais il y a des femmes enceintes qui ont des cancers du col, par exemple. Mais ça, c'est un autre problème. Lorsqu'on est enceinte et qu'on a un cancer du col, c'est vraiment un cas particulier. Le gynécologue, l'obstétricien, sait comment pouvoir manager ces choses-là. Et habituellement, ça ne demande pas une interruption de la grossesse. Et peut-être on finit par pouvoir faire une césarienne lorsque le cancer est envahit tout l'école, et pour sortir l'enfant et pouvoir prendre en charge la femme par la suite dans un centre spécialisé de traitement du cancer.
Voilà, cette question également de Nelson Milimo qui écrit depuis Kindu dans le Maniema. Les cancers du col de l'utérus est-il transmissible?
Mais justement, je ne dirais pas que les cancers lui-même soient transmissibles. C'est les lésions précancéreuses, les lésions dont on a parlé tout à l'heure, et qui sont justement des lésions entraînées par la présence de ce virus qui est sexuellement transmissible et qui peuvent être justement transmises. Ces lésions peuvent être soignées, je l'ai dit, de manière simple pour éviter que ces lésions ne puissent se transformer en cancer. Donc, d'une manière ou d'une autre, quelque part, le sexe intervient dans l'apparition de ces cancers, parce que toutes ces lésions bénignes ne sont pas nécessairement, ne se transforment pas nécessairement en cancer, mais il faut les savoir, il faut les suivre, il faut les soigner. Et donc, on peut à peu près dire ça, mais c'est pas les cancers lui-même.
Voilà, cette autre question de Martine Tintia Malou qui écrit des Kinshasa toujours. Quelle différence y a-t-il entre la boule, c'est-à-dire pour un kyste, et le cancer dans le sein? C'est-à-dire que la boule, le kyste, c'est-à-dire...
Est-ce Donc, sur le plan clinique, d'abord, donc, ce n'est pas la même sensation qu'on a. Et donc, un cancer, normalement, c'est dur, c'est pierreuse comme consistance. Une boule de sein rénitente, qui est bien arrondi et qui peut faire mal parfois, parce qu'il faut dire que c'est rare quand un cancer fait mal, et quand on a de douleurs dans le sein avec de petites boules de cette manière, on peut se tranquilliser. Mais j'ai dit encore une fois, la seule personne qui peut vous rassurer, c'est le médecin, et pas encore le médecin clinicien, mais c'est l'histopathologiste, parce que lorsqu'il y a une boule, il faut pouvoir prélever un morceau pour envoyer l'analyse. Il ne faut pas laisser traîner la boule.
Une autre auditrice, une autre femme, j'allais dire, donc c'est bon, tu nous appelles Darou, c'est Esther Obedi. Bonjour Esther.
Bonjour Marcel, bonjour à tous.
On vous écoute Esther, quelle est votre question sur ces sujets, comment prévenir les cancers du sein ou du col de l'utérus?
Merci, j'ai juste des questions, mais l'une a été déjà posée, mais c'était juste... l'autre invité venait de dire que les cancers du col se transmet par...
Esther, vous êtes toujours en ligne, on n'a pas pu bien vous suivre là, j'espère qu'elle est toujours en ligne. Esther, vous êtes toujours en ligne? Désolé pour Esther, apparemment il y a quelques...
Mais je voudrais quand même rectifier parce que je pense que j'ai compris à peu près. Elle voulait dire que notre invité, moi, donc j'aurais dit que les cancers du col se transmettent par les sexes. J'ai dit les cancers du col est transmis par le sexe via des lésions précancéreuses, des lésions qui ne sont pas encore des cancers, et toutes ces lésions ne deviennent pas des cancers. Donc le virus qui est à la base de la transformation des cellules du col, eh bien ce virus-là est transmis sexuellement. Mais toutes les femmes qui portent ces lésions ne sont pas des femmes qui vont développer des cancers plus tard. C'est 1 à 2% de ces femmes, mais ces lésions sont importantes à être surveillées ou à être soignées, prises en charge directement, parce qu'il y a ce qu'on appelle des lésions de bas grade qu'on doit surveiller, mais des lésions de haut grade, pour ne pas entrer dans le détail, doivent être soignées, je vous ai dit, par exemple, par la colonisation ou par ce qu'on appelle la vaporisation au laser. Mais le cancer lui-même n'est pas transmis sexuellement. Ce sont les lésions qui précèdent ces cancers qui sont, c'est pour dire qu'on peut avoir le virus sans pouvoir développer un cancer.
Alors, vous pouvez toucher un mot par rapport à cet examen de mammographie pour ce qui est du cancer du sein, oui.
Mais disons qu'on conseille maintenant, à partir des 40 ans, même si la femme n'a pas de boules, parce que tous les cancers du sein ne s'expriment pas, parce qu'il faut les dire, il n'y a pas que de boules qui se développent. Ça peut être des cancers qui se développent vraiment dans les canaux galactophores. Et c'est un examen important, une radio du sein. On peut aller une fois l'an, aller voir son radiologue, son médecin, qui doit pouvoir vous recommander cet examen. Et cet examen est facile, banal. On peut vous dire qu'il y a quelque chose qui commence ou il n'y a rien du tout. Et vous répétez ça tous les ans. à partir de 40 ans.
Bah, docteur Mondi, on va s'arrêter par là, mais nous rappelons donc par rapport à ce que vous avez dit, la meilleure prévention pour ce qui est d'abord du cancer du sein, c'est de se faire régulièrement de l'autopalpation. Et pourquoi pas aussi, si l'occasion se présente, une mammographie.
Mammographie annuelle.
Oui.
À partir de 40 ans.
À partir de 40 ans. N'attendez pas que vous ressentez une boule.
Même si vous n'avez rien.
Exactement. Mmh. Et vous avez également parlé du col de l'utérus, surtout pour ces cancers-là. Il faut absolument aller
voir le médecin.
Tu
vas faire un petit frotté qui ne coûte rien et on vous dira que tout va bien.
Docteur Antoine Maudia, vous êtes gynécologue. Merci d'avoir été des nôtres pour aborder ces sujets sur la prévention du cancer du sein, du col de l'utérus. C'est un réel plaisir de vous avoir dans nos studios.
Moi, je vous remercie, moi aussi. À la prochaine.
À la prochaine.